J'ai envie de peindre pour tâcher de savoir ce que je vois. C'est-à-dire, je ne prends pas le monde extérieur comme prétexte pour faire une belle toile, mais la toile comme moyen pour mieux voir ce qui m'entoure, dont je ne vois qu'en travaillant. Et ce vers quoi je tends, c'est de tâcher de voir un peu plus clairement ce qui m'échappe. J'ai l'impression que je ne commence, et ça m'est arrivé dernièrement, ayant fait poser un modèle exactement tous les jours pendant 6 mois, 3 ou 4 heures par jour, ça n'est qu'après 6 mois que j'avais l'impression de commencer à le voir un petit peu.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Son ami Jean Genet, qui se plaignait des longues heures de pause sur une inconfortable chaise paillée, écrivit dans son atelier de Giacometti que ces statues semblent appartenir à un âge défunt, avoir été découvertes après que le temps et la nuit qui les travaillèrent avec intelligence les ont corrodées pour leur donner cet air à la fois doux et dur d'éternité qui passe. Il fallait bien un poète pour savoir mettre les mots sur l'émotion embrouillée et indicible qui saisit chacun, béotien comme esthète, devant une sculpture d'Alberto Giacometti. Il faut aller voir, malgré la foule qui s'y presse déjà, la formidable exposition que lui consacre le Centre Georges Pompidou, jusqu'au 11 février prochain. Plus de 600 pièces, rarement voire jamais vues, provenant essentiellement de la fondation Alberto et Annette Giacometti, qui fonctionne officiellement enfin depuis 2003. Pas moins de 200 sculptures, 60 peintures, 170 dessins y sont exposés, ainsi que des documents, carnets, photos et panneaux descellés des murs de l'atelier du 46 rue Hippolyte Mindron. Véronique Wissinger, présidente de la Fondation et commissaire de l'exposition, est ce soir l'invitée de l'humeur vagabonde, ainsi que Marcelin Plenet, qui publie chez Dilecta, Giacometti, le jamais vu.
Thank you.
plus on s'approche à sa vision, plus l'inconnu grandit. C'est-à-dire qu'on est toujours à même distance. Plus on arriverait à préciser la tête telle qu'on la voit, plus la tête vous dépasse. Donc il n'y a pas de doute que si je passais 1000 ans dans mon atelier avec le même modèle, dans la même pose, après 1000 ans, j'en serais d'une certaine manière toujours au même point. La réalité me serait aussi insaisissable et aussi lointaine qu'aujourd'hui.
Bonsoir Véronique Wisinger.
Bonsoir.
Bonsoir Marcelin Plenet.
Bonsoir.
Alors vous êtes commissaire de cette exposition qui vient de démarrer à Beaubourg, mais je me suis trompée en disant que vous étiez présidente de la Fondation. Vous êtes directrice de la Fondation Alberto et Annette Giacometti, puisque c'est Jacques Vistel qui en est le président. Et donc cette exposition qui vient de démarrer à Beaubourg et qui a déjà un grand succès public, les fils s'étirent sur la place, c'est la plus grande exposition jamais consacrée à Alberto Giacometti.
Absolument, oui, oui, en termes de nombre d'œuvres exposées, c'est la plus grande.
Et c'est sans doute la plus surprenante parce qu'effectivement, on y découvre... Vous avez, dans la présentation de ce très beau catalogue, vous dites, en fait, c'est comme une relation de voyage archéologique. Et c'est vrai qu'on découvre des choses qu'on ne voit pas habituellement dans une exposition. Tout le monde a l'impression de connaître Giacometti, bien sûr. Mais là, on est face à des choses qui sont rarement montrées. Les esquisses, les différents stades avant d'arriver au bronze, les bouts de fil de fer qui sortent des plâtres. Donc, c'est très volontairement comme un voyage archéologique que vous avez conçu cette exposition.
C'est exactement ça. En fait, c'est un voyage pour accompagner Giacometti vers cet inconnu dont il parlait tout à l'heure, ce voyage de 1000 ans. C'est exactement ça, oui.
Parce que, effectivement, on entendait la voix de Giacometti. Il est très surprenant quand on lit, quand on l'entend et on le comprend en voyant cette exposition, qu'en fait, il était toujours pétrifié devant ce qu'il faisait. Un, parce qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, et deux, parce que c'était à chaque fois, il redécouvrait l'œuvre en train de se faire.
Je pense que chaque matin, il redécouvrait les choses. Hein. Pétrifié, je ne dirais pas pétrifié, et je dirais qu'il était à la fois émerveillé et horrifié.
Oui,
et
parfois,
que c'est dans cette dynamique de
il explosait
contradictoire,
même, ouais.
Voilà. Mais il est tout à fait en contrôle. Hein. Si vous voulez, ce qui l'intéresse, c'est le chemin. Donc ce chemin qui peut durer 1000 ans, c'est ça qui l'intéresse, oui.
Marcelin Plenet, vous qui avez vécu en compagnie des artistes et qui venez de publier ce « Jamais vu » chez Giacometti, comment avez-vous reconnu votre Giacometti dans cette exposition et est-ce que vous avez été étonné par des choses que vous ignoriez ?
Oui, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Je crois que c'est la plus importante exposition sur Giacometti que j'ai vue et la mieux faite de très, très loin. De très, très loin. Et elle porte son nom. Je pense que ce qu'elle a de singulier est indiqué dans son titre, l'atelier.
Qui était déjà le titre de Jean Genet.
Voilà. Et je pense en effet que l'atelier de Giacometti, c'est une chose très importante et qui déborde considérablement le cadre strict d'un atelier. Dans ce qu'on a entendu de Giacometti, vous avez certainement remarqué que la question du temps revient, n'est-ce pas? Genet dit que ça lui semble venir de très très loin, ce que cette exposition montre, à mon avis, admirablement, ça n'est pas un temps que l'on pourrait fixer facilement, voire en renvoyant à une archéologie ou en renvoyant à un avenir. C'est ce qui, me semble-t-il, l'exposition montre magnifiquement, et surtout, avec la quantité de plâtre qu'il y a dans cette exposition, qui sont des choses tout à fait extraordinaires, où on a l'impression que l'artiste vient de quitter le plâtre lui-même, parce qu'il y a le plâtre, il y a ensuite le travail qu'il fait sur le plâtre. Le plâtre me semble un lien très
c'est
très
souvent
très...
plus émouvant qu'un bronze.
Oui. Oui, et surtout c'est un lien entre la sculpture et la peinture. Et je pense que ce qui se manifeste là, c'est en vérité le propre de l'œuvre de Giacometti, qui est une œuvre très très ambitieuse, peut-être une des plus ambitieuses du XXe siècle. C'est une traversée du temps. En vérité, il ne s'agit pas de se fixer sur un temps ou sur un autre, c'est une traversée du temps. Il raconte à un moment donné que lors de son séjour à Venise, il a fait une halte à Padoue et qu'il a vu trois jeunes filles. Et brusquement, ces trois jeunes filles lui évoquent un nombre d'artistes qui traversent le temps. Chimabue, Tintoret, et il finit par dire que, bien entendu, cela le conduit à l'extrême et très grande admiration qu'il a pour Cézanne. Donc c'est un peu d'ailleurs comme pour Cézanne, en effet, c'est la question de ne pas se trouver fixé dans son actualité, mais de faire que le temps qu'il vit lui-même traverse cette actualité et l'excède.
Alors vous venez de prononcer le nom de Cézanne, Marcelin Plenet. On va écouter à nouveau la voix de Giacometti disant à quel point pour lui Cézanne a été une sorte de point de départ pour son envie de peindre.
Cézanne, c'est comme s'il avait fait sauter une bombe de cette vision qui existait, en peignant une tête comme un objet. D'ailleurs, il le prétendait. Il peint une tête comme une pomme, comme n'importe quoi. En peignant l'oreille gauche, faisant plus de rapport entre l'oreille gauche avec le fond qu'avec l'oreille droite, la couleur des cheveux avec la couleur du chandail qu'avec la structure du crâne, il a fait sauter tout à fait la conception qu'on avait tout de même de l'ensemble, de l'unité d'une tête. Il a fait sauter parfaitement un morceau. Il a fait tellement sauter un morceau que d'abord on a prétendu que ça devient un prétexte, la tête. Donc ça donnait la peinture abstraite, est tellement un morceau que malgré tout, toute présentation aujourd'hui qui voudrait revenir à la vision précédente, c'est-à-dire à l'intégrité d'une tête telle qu'on la faisait dans la Renaissance, on n'y croit plus. Elle ne ressemble plus à une tête, elle ressemble à une tête de musée alors.
Véronique Wissinger, c'est vrai que pour Giacometti, Cézanne a été le modèle, l'accompagnateur tout au long de sa vie, et aussi les peintres italiens. Mais Cézanne tient une place particulière, et c'est même à cause de son retour à Cézanne qui sera exclu du groupe surréaliste, puisqu'il se remet à faire des portraits, à peindre la réalité, et Breton va l'exclure pour ça.
Il est exclu pour plusieurs raisons, mais c'est vrai que sa quête de la vérité en sculpture, qu'on peut mettre en parallèle avec la quête de Cézanne, est tout à fait capitale, oui. Et je pense que Giacometti n'a jamais compris pourquoi Breton n'avait pas compris l'importance de cette nouvelle quête qu'il avait, parce qu'en fait elle remonte à très très loin. Et il y a tout un tas d'éléments qui auraient pu permettre à Breton de saisir ça.
Alors pour revenir au titre de cette exposition à Beaubourg, dont vous êtes le commissaire, l'atelier de Giacometti, il faut dire pourquoi cet atelier est bien autre chose qu'un atelier. C'est comme on a dit, l'intérieur du crâne de l'artiste, mais c'est le cœur, c'est le creuset où se fait ces œuvres d'art. Il y a vécu 40 ans. Et même quand il a commencé à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, il est resté dans cet atelier misérable, avec longtemps un sol de terre battue. Enfin, on a raconté tout, la manière dont il vivait là. Qu'est-ce que représentait à ce point d'important pour Giacometti ce petit atelier de 25 mètres carrés de la rue Hippolyte Mindron?
L'atelier, comme disait Marcelin Plenet, c'est deux choses, c'est le lieu et c'est la pratique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Ce lieu-là, il arrive à un moment dans la vie de Giacometti qui est important, qui en 1927, quand il décide de rester à Paris et de faire carrière, donc de s'investir, et il va rester le lieu de sa création jusqu'à la fin, pour tout un tas de raisons qui, effectivement, comme vous le disiez, n'ont rien à voir avec l'inconfort, mais qui ont à voir avec une ritualisation du lieu. Je pense que ça, c'est tout à fait important. La façon qu'il a de travailler avec le modèle, de le situer à une certaine distance, et puis de se nourrir de l'atelier pour sa propre création, avec un procédé quasiment d'autocitation permanent. C'est-à-dire, c'est un retour et une façon de créer un vortex dans ce lieu-là, qui est effectivement aussi une façon d'échapper au temps. Marcelin Plenet parlait à juste titre de cette traversée du temps, et il est très frappant de constater dans les écrits de Giacometti qu'il a une perception du temps qui n'est pas du tout linéaire. Il perçoit, comme il l'a écrit dans un texte fameux de 1946, à la fois le passé, le présent, autour de lui, de façon simultanée, et on pourrait même aller jusqu'à l'avenir. Il est dans cette brèche-là, et c'est cette brèche-là qui m'intéresse et que j'ai eu envie de fouiller dans cette exposition. Alors après, je montre des morceaux éclatés de l'atelier, parce que je pense que c'est très important de rappeler la façon qu'il avait de se positionner dans ce lieu-là pour une certaine création, et que les morceaux qui ont été détachés en 1972 sont des témoins de sa pratique, et qu'il y a beaucoup de rapports entre la manière qu'il a de travailler sur les murs et ces multiples couches qui sont à l'œuvre dans les tableaux et dans les sculptures. Donc c'était vraiment important de les voir ensemble.
C'est vrai que dans cette exposition à Beaubourg, Marcelin Plenet, c'est particulièrement émouvant de voir ces morceaux de mur de l'atelier de la rue Hippolyte Mindron, dont Alberto Giacometti se servait comme d'essai, comme de carnet de croquis, et puis aussi comme à Pompéi, le dessin qui se détache sur un autre dessin, sur un mur. C'est très impressionnant. On parle d'archéologie, on revient à Pompéi.
Je me demandais pourquoi cela était à ce point émouvant, et il m'a semblé que l'exposition en général, l'ensemble de l'exposition et c'est la présentation de ces murs et la présentation des œuvres ou inachevées ou qui étaient conservées dans l'atelier. Ce qui a d'émouvant, c'est que cela répond de quelque chose de très vrai, à savoir que Giacometti est le contraire d'un fabricant. En effet, son œuvre témoigne d'abord d'une pratique existentielle, d'une expérience existentielle. Il est constamment confronté, si on regarde ce qu'il écrit. Or, il médite sur son œuvre de façon tout à fait admirable. C'est aussi un penseur, n'est-ce pas? Là, on a l'exemple rare d'un artiste qui est aussi un grand penseur. Or, je crois que, en effet, ce qui est émouvant dans cette exposition, c'est qu'on a l'impression de se trouver associé à l'expérience existentielle de l'artiste, d'y être lié et de s'y trouver associé. On entre dans une espèce de méditation où l'expérience existentielle de l'artiste, c'est-à-dire ce qu'il a vécu très intimement et de façon extrêmement complexe, il faut bien le dire, est tout à fait présente. Ce qui m'a frappé aussi, je ne sais pas si c'est souligné ou non, mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que ce type d'expérience qui commence bien entendu avec l'enfant. Vous parliez tout à l'heure de Cézanne. Il faut savoir qu'en 1907, le père de Giacometti visite la grande exposition Cézanne que Rilke va visiter aussi et en parle avec un engouement tout à fait extraordinaire. Or, l'année précédente et même cette année-là, le fils sert de modèle au père. Donc il est né là-dedans. Donc cette expérience participe de ça. Mais je crois qu'il y a un événement qui se produit dans la carrière de Giacometti qui en effet vient après le surréalisme, et il est tout à fait normal que Breton n'ait pas compris du tout ce qui se passait. Vous savez, Breton considérait l'ambition artistique de Cézanne comme tout à fait imbécile. Donc il y avait là un abîme entre les deux hommes, un abîme que comblait des l'intelligence de Giacometti et puis aussi la richesse du surréalisme, bien entendu. Mais je crois que ça se joue comme ça, mais qu'il y a une date tout à fait importante, et qui est une date à la fois importante pour Giacometti et importante pour,